E-Radio, l'invité de la rédaction. Thomas Rocher.
Du 24 au 30 janvier, la ville d'Angers se plonge dans le film européen avec le festival Premier Plan, un festival de premiers films de réalisateurs venus des quatre coins de l'Europe. Avec nous sur E-Radio aujourd'hui, Claude-Éric Poiroux, vous êtes fondateur d'Europa Cinéma, un réseau de salles de cinéma à programmation européenne, et notamment le créateur, désormais délégué général et directeur artistique du festival Premier Plan d'Angers, où on se trouve aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
C'est donc la 34e édition du festival Premier Plan, cela fait donc 34 ans que vous avez créé ce festival. Quelle était l'intention de départ?
L'intention à l'époque, c'était d'être aussi dans un paysage européen qui était en train de se constituer. C'était la grande époque où on inventait l'Europe. Et donc, on a été au milieu de ça. Et non seulement au milieu, mais on a voulu être acteur aussi, parce que moi, je voyageais, j'étais distributeur, j'étais producteur. J'avais pas mal vu aussi de pays européens. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui pouvait se faire au niveau du cinéma, et en particulier le jeune cinéma. Donc ça a été véritablement l'objectif, le premier objectif, c'était l'Europe. Le deuxième objectif, c'était la jeunesse. La jeunesse des films, mais la jeunesse aussi du public. Donc ça a été ces trois éléments-là qu'on a mis ensemble. Et je me souviens, Simone Veil, qui était à l'époque présidente de l'Union européenne, était venue inaugurer le festival pour son premier soir.
Comment, en tant que directeur artistique, vous procédez à la sélection des films?
Alors, les films, on les voit évidemment quelquefois sur place, dans d'autres festivals internationaux. Mais aujourd'hui, avec les outils que l'on a, faire circuler un film, c'est en ligne. Et donc, il faut des codes. Et il faut quand même qu'il y ait une intentionnalité, qu'on nous les propose. Et donc, en l'occurrence, on en reçoit 2500 par an. Je parle de tout, hein, court-métrage, film d'école, long-métrage. Et donc, c'est un vraiment... D'abord, ça montre aussi une certaine créativité du cinéma, du jeune cinéma. Et puis, ça montre aussi l'intérêt. On est plutôt bien reconnu à l'échelle de l'Europe. C'est un festival de premiers films. Il y a très peu de festivals. Je crois qu'on est les seuls à être festival de premiers films. Tous les festivals passent des premiers films, mais nous, c'est notre objet. Et donc, aujourd'hui, on sait que c'est un lieu où c'est possible à la fois de rencontrer du public. Il y a le public, il y a la presse, il y a les professionnels. On est tout près de Paris aussi. Et puis, il y a aussi cette dimension qui est une dimension... un peu de jeunesse qu'il y a ici. Il y a beaucoup de jeunes qui voient les films. Et les films de jeunes, quand je dis que c'est aussi un cinéma de jeunes, les premiers films, parce que souvent les personnages sont des enfants ou des adolescents. Et ça parle évidemment à un public aujourd'hui d'enfants et d'adolescents ou de jeunes adultes. Donc il y a un petit peu cette osmose-là qui s'est créée à Angers depuis 34 ans, qui fait que le festival ne vieillit pas, il se ressource chaque année, et que chaque année, on a un plaisir à la fois de découvrir des jeunes réalisateurs qui ont 25 ans, 30 ans, hein, et puis de voir qu'ils vont devenir célèbres. Il y a pas mal qui sont passés par ici, qui sont devenus très célèbres. Et puis de voir un public qui, tous les ans aussi, fait quelquefois ses premiers pas au cinéma. Mmh.
34 ans plus tard, on se retrouve donc à Angers pour cette édition 2022. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette édition? Qu'est-ce qu'on va y voir? Quel est le thème de cette année, peut-être?
Disons qu'on a plusieurs aspects dans la programmation. Il y a effectivement 99 premiers films qui vont être présentés avec leurs réalisateurs qui viennent de toute l'Europe. Donc ça, c'est la partie européenne et jeune cinéma. Il y a aussi une partie un peu plus patrimoine. En tous les cas, on donne chaque année une thématique. Cette année, la thématique, c'est évasion au pluriel. Alors c'est vrai qu'on nous a posé la question déjà, mais c'était volontaire en plein Covid. Non, on y avait pensé un peu avant. Et finalement, ça tombe très bien, effectivement. Comment s'évader, comment le cinéma aussi nous permet de nous évader. Il n'y a pas simplement s'évader de sa prison ou de son univers, c'est aussi par la pensée. Donc ça, c'est une thématique qui permet de voir des grands films, de voir Vanda cet après-midi, de voir la grande évasion, de voir un certain nombre de condamnés à mort s'est échappé. Voilà, tous ces films qui sont Thelma et Louise, évidemment, qui sont des films que le public va redécouvrir aussi sur grand écran. Hein. C'est ça qui est important avec les DCP aujourd'hui, c'est les bonnes conditions. Et puis, on rend hommage à Christian Petzold, qui arrive tout à l'heure. C'est le plus grand cinéaste allemand aujourd'hui. Il a entre 50 et 60 ans. C'est quelqu'un qui a une douzaine de films à son actif. C'est quelqu'un de très productif, de très, très ouvert au public. Ses films sont vraiment faits pour le public. Il y a toujours de l'action, il y a toujours vraiment une intrigue, il y a toujours un scénario. Et en plus, la mise en scène qu'il fait, c'est vraiment un grand cinéaste. Et c'est des gens, c'est quelqu'un aussi qui utilise des grands acteurs. Et là, cette année, vous avez vu l'affiche, donc c'est l'affiche de Ondine. Effectivement, on est content aussi de faire valoir un cinéma allemand. Aujourd'hui, notre voisin, et il sera là pendant 3 jours, il va rencontrer le public. Et puis, il y aura aussi des Portugais, Abi Feijó et Pessoa. Il y aura aussi Jonas Carpignano. Bon, beaucoup de cinéastes aujourd'hui qui sont des références aussi pour les jeunes cinéastes. Ce n'est pas que pour le public, c'est aussi pour les jeunes cinéastes. Voir un film aujourd'hui de Carpignano, c'est aussi comprendre ce que c'est que le cinéma proche des réalités, avec des personnages qui ne sont pas des acteurs dans leur métier, mais ils viennent de la vie dans laquelle on les filme, mais en même temps, ils se comportent comme des vrais personnages de cinéma. Pas évident, il y a de la mise en scène, c'est très bien fait, c'est un jeune cinéaste, il est américano-italien, et je pense que ça va être la découverte un peu de ce festival, les 3 films qu'il a fait en Calabre, et c'est quelqu'un qui donne un peu des leçons aussi pour voir un peu comment on fait quelque chose qui parle de la réalité d'aujourd'hui sans être seulement documentaire. Non, il faut être fictionnel. D'ailleurs, un de ses producteurs, c'est Scorsese. Ça ne m'étonne pas de voir effectivement comment ce garçon est très repéré. Et c'est le cas aussi de Petzold. Vous voyez, donc je pense qu'il y a vraiment des grands moments où on peut se ressourcer, on peut voir des films qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, dans des contextes qui sont des contextes un petit peu d'émulation aussi, puis de joie et de partager. Et puis les réalisateurs sont là. Donc, puis des critiques, donc on en parle.
Ouais. Alors justement, ces réalisateurs, ces jeunes réalisateurs qui présentent l'une de leurs premières productions ici, qu'est-ce qu'ils retirent de ce festival? J'imagine que c'est une belle opportunité pour eux aussi.
Ben, vous savez, là encore une fois, j'ai vu tout à l'heure des jeunes gens qui viennent présenter leur premier court, leur premier long, et je leur raconte toujours un peu la même blague, c'est que quand je me souviens l'avoir fait une fois devant des jeunes réalisateurs de courts-métrages, et je m'étais promené avec eux dans le centre des congrès pour leur montrer les salles. Voilà. Ils les ont découverts avec moi, et puis à ce moment-là, je leur montre la grande salle qui fait 1300 places. Voilà. Et je leur dis, voilà, ça va être la salle où on va présenter votre film tout à l'heure. Et là, vous les voyez un peu blêmir, parce qu'ils se disent, mon court-métrage, mais il n'y aura personne. Parce que, voilà, c'est vrai que c'est pour eux quand même une vraie joie de voir un public, ils y pensent au public, mais enfin, quand vous faites un court-métrage, vous n'êtes pas en train de penser faire des millions de spectateurs. Un public qui va venir pour eux, pour les découvrir. En plus, ils seront présents, donc ils vont être présents à l'événement. Ils vont répondre aux questions. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils n'oublient pas. Et je pense que les festivals comme les nôtres, ça reste marqué dans leur mémoire. Je me souviens d'avoir rencontré Fatih Akin à Cannes, où il était au jury, le réalisateur allemand. Il était venu ici pour son tout premier long métrage, Kurz et Schmerzlos. Et quand je lui ai parlé à Cannes, comme ça, je lui ai dit, je suis Claude-Éric Poirot, le directeur de Premier Plan. Il me dit, mais oui, oui, oui. Et à ce moment-là, il était intarissable. Il me dit, mais il m'a raconté très précisément tout, lui qui venait de Hambourg. C'était une des premières fois qu'il y avait 1300 personnes voir son film, premier long métrage. Il s'en souvenait. Sorrentino est venu aussi pour présenter son premier long ici. Desplechin, évidemment, beaucoup de gens sont passés par ici. Et je crois que le festival donne une ambiance, donne une dynamique, leur donne confiance en eux. Ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls, il y en a d'autres, ils sont en compétition, mais ils s'en foutent, la compétition à cet âge-là. Et donc, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est plutôt assez ça leur donne aussi une créativité, quoi. Ils ont envie de continuer, et je pense que c'est un festival qui, en général, les gens, quand on les invite, ils ne refusent pas l'invitation.
Oui, une belle opportunité, donc. Oui. Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de se faire sa place en tant que cinéaste, peut-être plus qu'il y a une certaine époque, ou moins, en fonction de, voilà, peut-être d'une multiplication de l'offre aussi aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait sa place dans le monde du cinéma aujourd'hui en 2022?
Vous avez raison, c'est vrai qu'il y a pas mal de concurrence. Évidemment, autrefois, quand on faisait un film, il fallait rassembler de la pellicule, il fallait faire des choses qui n'étaient pas tout à fait aussi évidentes que ça d'accès. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, on fait un film. Donc, c'est quelque chose qui est multiplié par le nombre de capacités techniques, technologiques qui nous sont ouvertes. Ça, c'est vrai. Donc, il y a effectivement, là, tout à l'heure, je parlais de concurrence, mais compétition, il y en a quand même une. Il faut arriver à surnager face à ça. Et puis il y a aussi, c'est vrai que bon, je me souviens du livre de Patineau qui disait comme ça, le temps disponible, le temps d'attention disponible, c'est celui d'un poisson rouge pour un enfant d'aujourd'hui. Bon, ça veut dire que les films, il faut qu'ils retiennent, il faut qu'ils soient tout de suite, qu'ils vous convainquent, pour que voilà, alors que le cinéma prend, c'est un peu le temps long, il faut quand même du temps pour rentrer dans les films. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait aussi évident que ça a pu l'être à certaines époques, où les films, ils faisaient événement à chaque fois. Alors, il y en avait beaucoup quand même, mais il y avait... Voilà. Là, maintenant, il y a une telle multitude. Il sort 15 ou 20 films par semaine à Paris. Comment voulez-vous retenir ces propositions-là? Donc, il y en a qui surnagent. Donc, c'est vrai que ça devient difficile. C'est quelque chose qui... Ça complique la vie des distributeurs, de ceux qui font les propositions. Et bon, ça reste un marché. Hein. Donc effectivement, il faut aussi avoir un souci de la continuité. Quoi. Il ne faut pas se laisser démoraliser. Mais c'est vrai que... Alors les festivals comme les nôtres, aujourd'hui, ils ont une valeur qui est une valeur peut-être pas commerciale dans un premier temps, parce que ce n'est pas ici qu'on fait des recettes financières. Mais par contre, c'est une autre valeur. C'est la valeur de la reconnaissance, c'est la valeur de l'expérience, comme je vous disais. Venir aussi dans un festival où votre film va rencontrer le public, vous le retenez. Et donc, d'une certaine façon, ça aussi, ça donne une certaine force, je dirais, économique à des réalisateurs qui sont là sous le regard de distributeurs, des producteurs. Il y a du monde ici, il y a des talent scouts qui se promènent un petit peu, qui regardent. Et tiens, celui-là, faut peut-être y penser, etc. Donc aujourd'hui, c'est un monde de valeur quand même, dans les deux sens du terme. Hein, la valeur du film, mais aussi la valeur du projet futur, de la carrière. Et je pense que c'est quelque chose qui, évidemment, rien n'est simple. Aujourd'hui, c'est sans doute plus compliqué. Mais enfin... beaucoup de monde y vont, puisqu'on a la possibilité d'y aller. Donc, prenons le risque, et ça ne coûte pas si cher que ça. C'est quelque chose qui peut-être avoir peut être un premier pas, une première... Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui pensent le cinéma avec... D'abord, parce qu'ils sont cinéastes. Et moi, je présente tout à l'heure le film avec Melville Poupeau, le film de Xavier Dolan, Laurence et Néouez. Il avait quel âge? Il avait 18 ans quand il fait son premier long métrage, Xavier Dolan. Il avait dans la tête le cinéma. Il avait regardé les films. Il avait vu effectivement comment on filme une porte qui s'ouvre. Il avait vu comment on filme un acteur qui rentre dans un plan. Et donc aujourd'hui, il y a quand même cette, si vous voulez, cette force-là que je crois est pas partagée par tout le monde. Pas tous ont envie de devenir cinéaste, mais il y a quand même des jeunes gens, qui ont envie du cinéma, qui le désirent. Et qui, j'espère, réussiront à traverser effectivement les premiers pas qu'ils doivent faire.
Parmi cette multitude de propositions alors qui sont faites dans le festival, on imagine qu'il y a plein d'objets cinématographiques très intéressants qui viennent comme ça éclore chaque année. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition sur le plan de peut-être des modes de narration différents, des façons de filmer qui sont différentes?
Disons que c'est vrai, ce que vous dites aujourd'hui, c'est cette diversité d'origine. C'est vrai, on a des films qui viennent de tous les pays. En plus, les pays, quelquefois, il y a des pays coproducteurs. Vous voyez, par exemple, il y a un film qui a été réalisé par un Chinois qui vit et qui habite Vienne, en Autriche, et qui a tourné, parce qu'il ne pouvait pas tourner en Chine, vu ce qu'il raconte, et est tourné à Taïwan. Bon, donc, vous voyez les choses. Donc, c'est déjà un monde qui se constitue pour qu'un film existe. Ça, c'est effectivement Alors, c'est aussi toutes ces ouvertures-là qui nous font des surprises. Donc, moi, je suis toujours assez... avide de voir un film, de voir la proposition. Bon, on en présente 99, on en a vu 2500, donc on a quand même fait un tri sélectif. On espère que le public en général ne vient pas nous voir en disant comme ça qu'est-ce que c'est mauvais. Non, ça peut ne pas plaire, ça peut ne pas convenir à ce qu'on aime, ça peut être aussi contraire à ce qu'on a comme idée du cinéma. Mais c'est quelque chose aujourd'hui, c'est des propositions, et c'est cette richesse, moi, qui m'intéresse. Et puis, comme vous le disiez aussi, c'est des styles, c'est des façons de regarder, c'est des façons... quand même, vous voyez des images inattendues, vous voyez des choses que vous n'aviez pas vues avant. Le cinéma, c'est quand même... Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans une image. Il y a à la fois l'image, le cadre, le contenu, le son, et toutes ces choses-là font des choses des prototypes. Et puis, il y a des moments où vous dites, bah, tiens, si je n'avais pas vu ce film, je n'aurais jamais vu ça. Voilà. Donc, c'est un petit peu cet esprit d'aventure qu'il faut avoir aujourd'hui. Et Melville Poupeau, d'ailleurs, qui est le président du jury, je trouve aussi que lui, dans ses choix de films et dans ce qu'il a fait dans sa, ce qu'il fait dans sa carrière, c'est aussi un aventurier. Donc, je pense qu'on se... On va bien se coïncider.
On va parler du cinéma européen. Pour ceux qui ne le connaissent pas aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le cinéma européen, les grands courants, les réalisateurs, les acteurs en vue, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Bah, disons que le cinéma européen, c'est effectivement pas toujours facile à définir. Et moi, je travaille aussi, dans, comme vous le disiez tout à l'heure, à Europa Cinéma, donc avec des exploitants qui travaillent dans toute l'Europe, hein, beaucoup, beaucoup de salles. Et donc aujourd'hui, on se rend compte quand même que la... comment dire, la constitution d'un monde, d'un univers européen, c'est pas quelque chose d'évident. Bon. En même temps, c'est quand même assez simple. Moretti, c'est un Italien, Ruben Östlund, on a un certain nombre de Peter Reffen, vous voyez, tous ces Almodovar, les Français, il y a beaucoup, Audiard, les Dardennes. Bon, alors ça, c'est déjà une catégorie de gens qui sont déjà arrivés, mais quand même, hein, qui marque quand même le cinéma européen, qui montre que le cinéma européen peut avoir une dimension au niveau de l'impact, de la reconnaissance, et mondiale. Hein. Tous ces réalisateurs-là sont connus dans le monde entier. Moi, je me souviens, j'avais été le producteur du premier film d'Olivia Sayas, qui s'appelait Désordre. Il n'était pas connu, son film n'était pas non plus fait avec des grandes stars, c'était son premier long-métrage. Je me souviens qu'il était invité, je sais pas, dans 40-45 festivals dans le monde. Il pouvait faire un tour du monde en faisant un premier film européen. Donc il avait été repéré, donc il faut avoir confiance. Hein. Le cinéma européen est vu quand même dans le monde entier, avec quand même beaucoup, des yeux qui sont très très attentifs. Donc aujourd'hui, faut avoir confiance en ça. Maintenant, est-ce que les films circulent aussi bien ? Est-ce qu'ils sont aussi faciles à repérer dans la circulation des œuvres dans les salles ? Ça, c'est un petit peu la difficulté. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous allez dans la rue et que vous demandez à quelqu'un « Est-ce que vous pouvez me dire le nom de 5 réalisateurs espagnols ?» Ils vont dire « Almodovar, on va rester là. Bon. » Et puis, est-ce que vous pouvez me dire... voilà, donc on s'est assez vite fait. Hein, et c'est quelque chose qui est peut-être... qui est encore amélioré, je pense, hein, sur la promotion, sur la capacité qu'on peut avoir un cinéma européen qui fasse un petit peu, qui fasse concurrence au cinéma américain. Hein. Bon, ils ont le star system, on n'en a pas. Christian Petzold, c'est le plus grand cinéaste allemand aujourd'hui. Voilà. Bon, Ondine, vous avez vu cette affiche, on la voit partout, donc ça marque. Ondine, donc ce film-là, bon, il a été vu, je pense, dans 20 pays en Europe, donc il a été vu, il n'y a pas de problème. On va recevoir Manel Labidi. Manel Labidi, il a fait un film qui s'appelle Un divan à Tunis. Eh bien, ce film était numéro 2 dans toutes les salles Europa Cinéma de l'année dernière. Ça veut dire que c'était le film qui a été le plus présent après le film de Polanski. Et donc, on se rend compte qu'il y a des bonnes surprises aussi, et que c'est quelque chose qui marque... Il y a une curiosité. Alors, elle n'est peut-être pas, c'est pas par millions de spectateurs, mais il y a une curiosité des spectateurs, des journalistes, des autres créateurs. Et donc, c'est ça un peu le cinéma européen. On n'a pas cet impact qu'ont les Américains avec les blockbusters. En même temps, quand on met de côté les blockbusters, est-ce que vous avez aussi beaucoup de cinéastes américains qui surgissent indépendants ? Bon, on en a évidemment quelques-uns, mais pas tant que ça. Donc aujourd'hui, le cinéma européen, c'est plutôt une agrégation de cinéma indépendant. Et ce n'est pas une agrégation d'un cinéma majoritaire, blockbuster, on ne sait pas. Bon, Luc Besson faisait peut-être ça à une époque. Maintenant, c'est quelque chose qui est... un peu moins, en tous les cas, c'est moins l'image que l'on peut avoir du cinéma européen, à part le fait qu'il est très productif. Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de réalisateurs, il y a beaucoup de propositions. Et je vous dis, il y a beaucoup d'intérêt mondial pour ce cinéma, qui est quand même le premier cinéma du monde en région. Vous voyez, la région européenne, c'est quand même ce qui produit le plus de films dans le monde. Il y a l'Inde, mais l'Inde produit beaucoup aussi pour son marché national. Donc on ne compte pas tellement ces films-là. Mais voilà, donc c'est une région très, très productrice et qui donc fait aussi une résonance dans le monde entier.
Oui. Donc vous nous le disiez, le cinéma européen, c'est une agrégation de cinéma indépendant. Comment est-ce qu'on le soutient, ce cinéma, économiquement ? Est-ce que, voilà, au niveau européen, il existe des ressources particulières, peut-être des fonds européens qui permettent à ce cinéma de se développer ?
Oui, ben, il y a Eurimage qui est assez connu. Hein, c'est Eurimage qui agit au niveau du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire y compris la Russie, la Turquie. Et donc, eux, ils favorisent la coproduction à l'échelle internationale, donc ils mettent des moyens, hein, qui sont importants, parce qu'un film Eurimage aujourd'hui est quand même, obtenir Eurimage, c'est un élément très positif pour la construction du projet, c'est important. Il y a aussi sur, à l'échelle européenne avec Creative Europe Media, il y a aussi tout un système de formation, tout un système de développement, d'éléments de promotion. Il y a un soutien aux salles, puisque Europa Cinéma est un programme dans Creative Europe Media. Donc les salles sont soutenues. Donc à l'échelle européenne, il y a quand même une volonté et une réalité qui est une réalité de prendre en considération cet ensemble d'œuvres, de circulation, d'émergence. Et donc aujourd'hui, c'est quand même assez riche et on ne peut pas dire qu'on est abandonné par la puissance publique. Non. Et puis ensuite, il y a tous les... Comment dire ? Dans les régions. Aujourd'hui, beaucoup de régions mettent de l'argent dans le cinéma. Aident aussi parce que c'est une façon de donner du travail à des gens dans la région. C'est aussi une façon de faire une image de la région. C'est aussi d'être là dans la géographie. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est quand même une réalité qui, à différentes étapes, à différentes échelles, trouve des soutiens. À la fois financiers normaux, hein, y a de l'argent qui circule, etc., et des soutiens publics qui sont quand même assez existants dans les pays d'Europe, plus probablement que dans beaucoup d'autres régions du monde.
On se trouve aujourd'hui 2 ans après le début de la crise sanitaire. Quel a été son impact sur la production cinématographique européenne et finalement, quelle est la santé aujourd'hui du cinéma européen aujourd'hui en janvier 2022 ?
Alors disons que ça a eu un impact sur le public en salle puisque les salles étaient fermées. Donc ça, c'est clair qu'il y a eu un impact. Maintenant, les salles s'en sortent aujourd'hui. Je dis bien, on sort de quelque chose. Donc on arrive à en sortir. Alors on n'est pas réussi non plus à atteindre ce qui était la fréquentation d'avant. Donc là encore, les difficultés restent et il y a quand même à regagner du terrain. Mais peut-être aussi à regagner aussi la puissance du cinéma en salle par rapport à d'autres propositions, le cinéma sur les plateformes en particulier. Donc ça, c'est quelque chose qui est visible par tout le monde. Ce qui est peut-être moins visible, c'est la production. Et moi, je dirais que la production n'a pas été tant que ça en crise. Bon, il y a eu effectivement des films qui ont été abandonnés, probablement, des films qui ont été reportés. Mais quand on regarde, aujourd'hui, la production, elle est vaillante. En Europe, dans le monde, les films se sont faits. Alors, quelquefois, dans des conditions assez étonnantes, hein, il fallait jongler avec le Covid, avec la protection, avec la possibilité de remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre, etc. Mais il y a eu une vraie, une vraie production pendant ces années, à tel point que j'entendais quelqu'un du Festival de Cannes, un des programmateurs, qui disait qu'il s'attendait à une très grosse année de propositions pour le Festival de Cannes. Et nous, à premier plan, on doit dire une chose, c'est qu'on a reçu les 2 000-2 400 films qu'on reçoit chaque année. Donc on peut dire que ça a sûrement été impacté, hein, mais ça ne s'est pas effondré. Et donc ça rend sans doute plus difficile, ça a rendu plus difficile les films. Mais vous savez, le cinéma, c'est une espèce de, c'est à la fois un mélange d'ingéniosité sur le terrain, de la débrouille, hein, mais en même temps une organisation quand même. Il y a derrière la production, on ne tourne pas un film comme ça avec un claquement de doigts. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi savoir résister. Hein, on crée un autre monde. Alors, on crée bien un autre monde, mais dans le monde actuel, il y a le Covid, donc il faut faire avec. Mais on peut ruser, on peut y arriver. Donc je dirais qu'il n'y a pas eu de catastrophe, si vous voulez, sur la production cinématographique à cause du Covid.
Le festival Premier Plan donc, va durer jusqu'à dimanche. Quel conseil est-ce que vous donnez aux visiteurs qui veulent s'aventurer dans ce festival ? Comment est-ce qu'on s'en imprègne ? Comment est-ce qu'on on s'aventure dans le festival Premier Plan ?
D'abord, ils peuvent faire des choix. Il y a un catalogue, il y a vraiment, les choix sont là, donc ils peuvent faire des choix eux-mêmes. Bon. Il ne faut pas qu'ils aient peur de se dire « on va aller voir quelque chose qu'on ne connaît pas ». Mais non, la plupart du temps, c'est des films qu'on ne connaît pas. Donc, allez-y. On a sélectionné les films. On espère que vous n'allez pas être déçus. Et puis, la troisième chose, je dirais, à une certaine époque, il y avait beaucoup. Là, cette année, ce sera peut-être un peu moins le cas. Mais quand on fait 80 000 spectateurs en une semaine, il y a des queues et il y a des gens qui sont refusés à une séance, etc., etc. C'était le cas des années précédentes. Mais ce que je dirais dans ces cas-là, mais c'est pas grave. Vous avez loupé celui-là, voyez-en un autre. Et peut-être ça sera la bonne, ça sera ce qui vous sera arrivé de mieux pendant le festival, c'est de découvrir quelque chose de complètement non prémédité et que vous avez découvert et vous direz, bah heureusement que j'étais voir ce film finalement. Ça, c'est un festival. Et moi, je l'ai été aussi comme professionnel dans certains festivals. On loupe une séance et puis on se dit, tiens, on va aller dans une autre. Chez nous, c'est encore plus à l'aventure parce que finalement, qu'est-ce qui vous, dans votre tête, vous voulez absolument voir un film géorgien, puis finalement, vous allez voir un film danois à la place d'un film géorgien. Mais dans les deux cas, vous ne savez pas qui est le réalisateur et pas quel est le sujet. Donc, d'une certaine façon, laissez-vous aller. Donc, à la limite, moi, je dirais que c'est un... il faut avoir un petit peu de temps, il faut avoir envie. Mais il y a pas mal de gens. Hein. J'ai vu tout à l'heure deux personnes qui viennent ici, ils viennent de Laval. Ils m'ont dit, bon, nous, on a la semaine, on est en vacances. Un couple qui est là, nous, on est en vacances, on a pris un hôtel, on est en vacances. Donc, on regarde les films. Donc, je pense qu'ils vont en voir deux ou trois ou quatre par jour. Ils vont se laisser aller, ils vont choisir, et puis ils vont voir des films au hasard. Donc, là, un festival est là pour ça. Si la qualité est bonne, si le festival a bien travaillé, si la programmation était bien faite, oh, on n'a pas trop de chances d'être déçus.
Merci, Claude-Éric Poirot.
Je vous en prie.
C'était l'invité de la rédaction d'Euradio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.